Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Hamar.
On l'a bien vu, et on le vérifie tous les jours, la crise que nous traversons actuellement, la crise sanitaire comme on dit, fait naître quantité d'expressions, de manières de parler et même de tics de langage qui ont un sens aujourd'hui alors qu'elles n'en auraient pas eu hier. En tout cas, un sens partagé par beaucoup de monde. Alors, on pourra y revenir dans les jours qui viennent, mais on peut commencer déjà par noter le mot « geste barrière ». Alors, je parle d'un mot. On pourrait penser qu'il y en a deux, geste et barrière. Ben non, il y en a presque un seul. Hein. Techniquement, oui, il y en a deux qui sont mis l'un à côté de l'autre. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en grammaire une apposition. On comprend bien pourquoi. Hein. Il est apposé, c'est-à-dire qu'il est posé à côté du précédent, sans que les deux soient liés par une préposition, par exemple. Hein, ils sont juxtaposés. Et pourtant, on a bien un rapport logique entre les deux mots. Le deuxième précise le premier. Geste barrière, c'est un geste qui sert de barrière, qui fonctionne comme une barrière. À la limite, c'est un geste qui lui-même est une barrière. Alors, ce genre de construction se multiplie. Bien sûr, sous l'influence de l'anglais, c'est vrai, parce que dans cette langue, c'est une tournure tout à fait courante, plus qu'en français d'ailleurs. Mais ce genre de syntaxe se répand dans notre langue, à tel point qu'on n'y voit nullement une imitation ou une contagion. Hein, quand on dit « rouge baiser »,« pochette plastique »,« tire-bouchon de Gaulle »,« effet Larsen », voilà des appositions. Ce ne sont pas des anglicismes. Mais ce qui est étonnant, bien sûr, c'est de voir que ces gestes barrières, parce qu'on y revient, ils fonctionnent dans deux sens symétriques. Ils servent à empêcher qu'on attrape la maladie, mais ils servent aussi à empêcher qu'on la propage. Parce que si on maintient une distance d'un mètre avec autrui, c'est autant pour ne pas attraper ses miasmes que pour ne pas lui communiquer les nôtres. Et si on élève des écrans entre les caissiers et les clients, c'est pour protéger les uns comme les autres. Donc, c'est ça une barrière, hein, une séparation matérialisée entre deux espaces pour délimiter deux champs, par exemple. Mais depuis longtemps, la barrière, elle a un sens figuré également. Elle marque une limite à ne pas dépasser, à ne pas outrepasser. On ne doit pas la franchir parce que sans ça, on se mettrait hors la loi. Ou simplement, on contreviendrait au règlement. Au départ, il s'agit simplement d'une clôture. Bien vite, c'est une frontière. Hein. Par exemple, autour de Paris, on parlait des barrières de l'octroi, un genre de frontière. Et dans un sens dérivé, on pense par exemple à ce qu'on appelle la barrière de la langue, la difficulté de communication entre des personnes qui ne parlent pas la même langue. La plupart du temps, donc, la barrière, elle est là pour empêcher. Mais pourtant, elle peut être associée au mouvement inverse. Bah, il suffit qu'on l'ouvre. Hein. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. Rassurez-vous, je ne vais pas vous chanter, mais je pourrais. Hein. On la lève, la barrière, à ce moment-là. Et là, on pensera très naturellement à la barrière des passages à niveau qui garantit que les trains ne rouleront pas sur le tout venant. Quand elle est baissée, on s'arrête en attendant que passe le convoi. Et puis une fois qu'il est passé, la barrière se relève, on peut y aller. Mais attention, un train peut en cacher un autre.